Quand on pense aux enfants de Zeus, on pense souvent à Héraclès, le héros parmi les héros. On pense aussi à Athéna, sa fille préférée. On pense encore aux jumeaux Apollon et Artémis, nés des amours avec Leto, pauvre déesse poursuivie par Héra. On pense aussi aux enfants légitimes que le dieu a eus de sa femme Héra, notamment Arès et Hébé, et même parfois Héphaïstos. Pourtant, on oublie souvent qu'une autre fille est née des amours de Zeus, cette fois-ci avec Déméter, la déesse des moissons, Perséphone, qui connaît une vie bien particulière au cœur des enfers. Prenons le temps d'observer son histoire par le petit bout du mythe. Aujourd'hui, Perséphone ou le printemps retrouvé. Le titan Cronos a donné 6 enfants à sa sœur et épouse Rhea. Dans l'ordre, Hestia, Déméter, Héra, Poséidon, Hadès et Zeus. Les 5 premiers ont été dévorés par leur père à la naissance, et le dernier, Zeus, survit grâce au stratagème de Rhea, puis sauve ses frères et sœurs. Cette histoire s'achève même au moment où les dieux prennent le dessus sur les titans, lors de la titanomachie. Après ce temps de guerre, le baby-boom divin débute. Et on ne connaît malheureusement rien du moment de séduction entre Zeus et Déméter, les Jupiter et Cérès des Romains, ni même quoi que ce soit de la prime jeunesse de Perséphone, que les Romains appellent Proserpine. Apollodore donne aussi le fleuve Styx comme mère de Perséphone, mais la majorité des auteurs en font bel et bien la fille de Déméter, puisqu'un pan entier du mythe de cette déesse tient à la recherche de sa fille. Le mythe qui nous intéresse aujourd'hui débute lors de la jeunesse de Perséphone et, disons plus largement, son adolescence. On sait que Déméter gardait secrète la présence de sa fille en Sicile, principalement sur le plateau central de l'île, près de la ville d'Héna. 3 poètes narrent l'enlèvement de Perséphone par Hadès. L'hymne homérique à Déméter, tout d'abord, le plus ancien, puis les métamorphoses d'Ovide, qui sont complétées par les Fastes, mais aussi un auteur de la fin de l'Antiquité romaine, Claudien, dans son rapte de Proserpine, dont les vers nous manquent à partir du chant 3. D'abord, Claudien nous explique la colère ressentie par Hadès de voir la plupart des dieux avoir une épouse. Il se prépare à la guerre. Il est cela dit vite arrêté par l'une des moires qui le prie de demander une épouse à Zeus. Celui-ci arrête son choix sur Perséphone, qui connaît déjà de nombreux prétendants parmi les dieux. Arès et Apollon les premiers, auxquels Nonos de Panopolis ajoute Héphaïstos, Hermès et bien d'autres dieux. Déméter savait déjà que sa fille risquait d'être enlevée et elle tente de protéger Perséphone en la cachant en Sicile, comme on l'a dit. Dans l'œuvre de Claudien, Zeus révèle à sa fille Aphrodite ses desseins et demande même à ce que la déesse de l'amour pousse Perséphone à profiter des champs de fleurs. Le décor est longuement planté par le poète, rappelant la présence d'Aphrodite, d'Athéna, d'Artémis et de nombreuses naïades, des divinités des eaux. Le territoire de Sicile est nommé Trinacrie, et le monde semble changer le temps d'un instant. Hadès est en train de chercher sa route sous la terre. Dès lors que, vaincue par son bras, la Trinacrie a dénoué ses liens serrés, ouverte largement en une fente immense, soudain paraît au ciel l'effroi. Les astres ont changé leurs chemins établis. L'ours se baigne en des eaux interdites. La peur fait se hâter le bouvier paresseux. Orion tremble. Atlas pâlit d'entendre ainsi hennir. Une haleine d'une autre teinte obscurcit l'axe rutilant. Ce monde effraya les chevaux accoutumés à se repaître d'une longue ténèbre. Stupéfaits par un ciel meilleur, ils rongent leurs freins, ils hésitent, ils luttent, timon de travers, pour revenir, pour retourner au chaos redoutable. Mais aussitôt qu'ils ont senti les coups, l'aiguillon sur leur croupe, qu'ils ont appris à supporter le jour, ils se ruent avec plus de fougue qu'un torrent hivernal, plus de rapidité qu'un javelot lancé. Le trait du Parthe n'est point tel, ni l'élan de l'austère, ni la pointe de la main quiète ne court çà et là si légère. Leur mort est chaud de sang, leur souffle mortel corrompt l'air, et les cendres s'imprègnent et se souillent de leur écume. Les nymphes de s'enfuir, et Proserpine, enlevée sur le char, implore les déesses. Déjà Pallas dévoile la tête de Gorgone, Délie se hâte et tend son trait sans céder à leur oncle. Leur commune virginité les stimule au combat. Elle aggrave le crime du ravisseur sauvage. Lui, tel un lion qui a pris une génisse, honneur du parc et du troupeau, qui de sa griffe a percé les entrailles mises à nu et assouvi sa rage sur tous les membres, et qui, debout, souillé d'un sang épais, secoue les nœuds de sa crinière en méprisant la vaine colère des pâtres. « Dompteur d'un peuple inerte, le pire des trois frères, lui dit Pallas, laquelle de tes Euménides t'a poussé de son aiguillon ou de sa torche impie ? Pourquoi quittes-tu ton séjour pour oser profaner le ciel avec ton quadrige infernal ? Tu as les difformes d'Irée, tu as les autres divinités du Léthé, tu as les funestes furies comme épouse digne de toi. Quitte les états de ton frère, laisse la part d'un autre, contente-toi de ta nuit et va-t'en. Pourquoi mêles-tu à la vie la mort ? Et pourquoi, étranger, foules-tu notre monde ? » En criant ainsi, elle frappe de son bouclier menaçant les coursiers qui veulent passer, oppose la barrière de son écu, les presse et fait siffler les hydres de Gorgone, les couvre en tendant son cimier. Son javelot de frêne est levé pour frapper et vient illuminer le char obscur. Il était presque envoyé si Jupiter, du sommet de l'éther, n'avait lancé un foudre rougeoyant aux ailes pacifiques. Il s'affirme beau-père. Par les nuées béantes, l'hymne tonne, et les flammes témoins confirment le mariage. À contre-cœur, les déesses cédèrent. La fille de Latone retint son arc en gémissant et ajouta ces mots. « Ah, souviens-toi, adieu pour bien longtemps. Le respect dû à notre père nous a empêchés de t'aider. Nous ne pouvons contre lui te défendre. Oui, nous sommes vaincus par un pouvoir plus grand. Ton père conjure ta perte. » Tu es livré au peuple du silence. Hélas, tu ne verras plus tes sœurs qui t'aiment, ni les cœurs de ton âge. Quelle sorte à arracher au monde supérieur, en condamnant les astres à un tel deuil ? Je n'aurai plus plaisir à tendre mes filets dans les fourrés du Parthénius, ni à porter le carquois. Que partout et sans risque le sanglier écume, que les lions cruels impunément rugissent, les sommets du Tégète, le Ménale, privés de chasse, te pleureront, et le saint affligé prendra longtemps ton deuil. Même le temple de mon frère Adelphe se taira. Un char ailé emporte entre-temps Proserpine, cheveux épars dans le Notus. Elle meurtrit de coups ses bras et fait éclater jusqu'aux nues de vaines plaintes. « Père, pourquoi n'as-tu pas lancé contre moi les traits forgés par les mains des Cyclopes ? Me livrer ainsi aux ombres cruelles, me repousser ainsi du monde entier, c'est toi qui l'as voulu ? N'es-tu fléchi par aucune affection ? Ne te reste-t-il rien du cœur d'un père ? Par quel crime ai-je suscité une telle colère ? Quand un désordre impétueux poussait Phlégra à la folie, je n'ai pas levé l'étendard contre les dieux. C'est sans mon aide que l'ossa glacée a porté les frimas de l'Olympe. Qu'ai-je tenté d'impie ? De quelle faute ai-je été la complice pour être chassée en exil au gouffre effrayant de l'Érèbe ? Heureuses toutes celles que d'autres ravisseurs ont enlevées. Au moins jouissent-elles de la lumière à tous commune. Tandis qu'à moi on refuse à la fois le ciel et la virginité. Avec le jour, on m'arrache l'honneur. J'abandonne la terre, on m'emmène captive pour servir le tyran du Styx. Ô fleurs aimées pour mon malheur, conseil dédaigné de ma mère. Ô artifice de Vénus que j'ai compris trop tard. Hélas, ma mère, soit que dans les vallées phrygiennes de Lida, l'horrible buis résonne autour de toi du chant de Mygdonie, soit que, séjournant au Dindyme où hurlent les gales sanglants, tu tournes ton regard vers les épées nues des curettes. Porte secours à ma détresse, arrête un furieux, retiens les rênes infernales d'un brigand menaçant. Le farouche Pluton est vaincu par ses mots et par ses pleurs qui l'embellissent. Il a senti les soupirs du premier amour. Le voici qui, de son manteau foncé, essuie ses larmes. Et d'une voix douce console sa cuisante douleur. N'accable plus ton âme, ô Proserpine, de funestes soucis ni de peurs vaines. Tu recevras un sceptre plus puissant sans supporter les feux d'un mari indigne de toi. Je suis fils de Saturne, la machine du monde me sert et mon pouvoir s'étend parmi l'immensité du vide. Ne pense pas avoir perdu le jour, nous avons d'autres astres, nous avons d'autres globes, et tu verras une clarté plus pure, tu admireras plus le soleil des Champs-Élysées et ses habitants vertueux. Là vit la race la plus précieuse, celle de l'âge d'or. Nous possédons toujours ce que là-haut on a mérité qu'une fois, et il n'y manque pas pour toi la douceur des prairies. Sous de meilleurs zéphyrs, là embaume des fleurs vivaces que n'a pas porté ton Etna. Sous l'ombrage des bois, il est même un arbre précieux qui courbe ses brillants rameaux à la verdure de métal. Je te le donne et le consacre. L'automne pour toi sera opulent, et ses fruits fauves t'enrichiront sans cesse. Mais c'est là peu. Tout ce qu'embrasse l'air limpide, tout ce que la terre nourrit, tout ce que balaie la plaine marine, ce que roulent les fleuves, ce qu'ont engraissé les marais, céderont à ton sceptre. comme tout animal soumis à la sphère lunaire, septième cercle qui entoure les airs, séparant les choses mortelles des constellations éternelles. De sous tes pieds viendront les rois qui s'habillaient de pourpre, dépouillés de leur luxe, mêlés à la foule des pauvres, car la mort égalise tout. Tu condamneras les coupables, tu donneras aux justes le repos, c'est toi qui, juge, forceras les criminels à avouer les forfaits commis en leur vie. Avec le gouffre du Léthé, reçois les parques pour servantes, et que le destin soit de toutes tes volontés. Sur ce, il encourage ses chevaux triomphants et entre adouci au Tartare. Les vers suivants de Claudien racontent le mariage entre Hadès et Perséphone, un moment de calme aux enfers, si calme que même les suppliciés du Tartare ont droit au repos. Il est une variante donnée par Ovide dans ses Métamorphoses qui rappelle le rôle de la nymphe Cyané qui s'est opposée au roi des enfers, et qui est oubliée par Claudien. Cyané s'est dressée au-dessus du gouffre jusqu'à la ceinture, et elle a reconnu la déesse. « Vous n'irez pas plus loin, dit-elle. Tu ne peux être le gendre de Cérès malgré elle. Il fallait lui demander sa fille, non l'enlever. Il m'est permis de comparer de petites choses aux grandes. Moi aussi, j'ai été aimé par la Napis. Cependant, c'est après avoir été vaincu par ses prières, et non, comme celle-ci, par la terreur que je devins son épouse. » Elle dit, et ses bras étendus des deux côtés, elle barre le passage. Le fils de Saturne ne peut contenir plus longtemps sa colère. Excitant ses terribles coursiers, il brandit d'un bras vigoureux son sceptre royal et le plonge au fond du gouffre. Sous ce choc, la terre lui livre passage jusqu'au Tartare et reçoit au milieu d'un cratère son char qui se précipite sur la pente. Cyané, pleurant la déesse enlevée et les droits de sa source outragée, n'élève plus la voix, mais elle garde en son âme une blessure inguérissable. Elle se fond tout en larmes, elle se résout dans les eaux dont elle avait été naguère la grande divinité. Et sur terre, Déméter ignore tout du rapt Édénos de Perséphone. Elle tente, cela dit, de retrouver sa fille en parcourant la terre. Et elle questionne de nombreuses divinités, toutes au courant, mais ayant toutes juré de ne rien dire. Zeus préfère garder le secret. Seule Hécate offre une clé de compréhension à Déméter, comme le rappelle l'hymne homérique consacré à Déméter. Et c'est Hécate qui parle. « Noble déesse, toi qui donnes les saisons et les présences splendides, lequel des dieux célestes ou des hommes mortels a ravi Perséphone et fait souffrir ton cœur ? J'ai bien entendu un cri, mais sans voir de mes yeux qui c'était. Je te dis en un mot, franchement, tout ce que je sais. » Ainsi parlait Hécate. La fille de Rhéa aux beaux cheveux ne répondit mot, mais s'élança bien vite avec elle, en tenant en main des torches ardentes. Elles allaient retrouver le soleil qui observe les hommes et les dieux, se placèrent devant ses chevaux et la divine déesse lui demanda « Soleil, traite avec honneur, toi du moins, la déesse que je suis, si jamais j'ai réjoui ton cœur et ton âme par mes paroles ou mes actions. L'enfant de mes entrailles, cette douce fleur dans toute la gloire de sa beauté. Ah, je viens d'entendre sa voix déchirante traverser les terres inlassables, comme si on lui eût fait violence. » Mais je n'ai rien vu de mes yeux. Or toi qui, du haut de l'éther divin, plonge les regards de tes rayons sur la terre entière et l'étendue des mers, dis-moi franchement si tu as vu en quelque lieu celui qui, dieu ou homme mortel, s'est enfui en m'arrachant, malgré elle et par la violence, mon enfant. » Elle parlait ainsi, et le fils d'Hyperion lui répondit en ces termes. « Fille de Rhéa aux beaux cheveux, Déméter souveraine, tu vas le savoir. Je m'incline avec beaucoup de pitié devant l'affliction que tu éprouves pour ton enfant aux longues chevilles. Parmi les immortels, il n'est d'autre responsable que Zeus, l'assembleur des nuées. C'est lui qui l'a accordé à Hadès, son propre frère, pour qu'elle fût appelée son épouse florissante. Hadès l'a enlevé, malgré tous ses cris, et entraîné avec ses chevaux au fond des brumes obscures. Allons, déesse, mets un terme à tes grandes lamentations. Il ne faut pas garder une vaine et farouche colère. Ce n'est pas un gendre indigne de toi parmi les immortels que le maître de tant d'êtres, Aidoneus, ton propre frère, est issu de ton sang. En fait de privilège, il a reçu son lot lorsque, à l'origine, se fit le partage à trois. Il habite avec ceux dont le sort l'a fait roi. » Après ces paroles, il excita ses chevaux, et eux, à sa voix, emportaient vivement le char rapide, comme des oiseaux aux longues ailes. Alors, un chagrin plus cruel, plus sauvage, s'empara du cœur de la déesse. Irritée contre le chronide des nuées sombres, elle s'écarta de l'assemblée des dieux et du vaste Olympe pour aller vers les cités des hommes et leur grasse culture. Déméter passe ainsi une année complète auprès des hommes, cachée sous les traits d'une vieille femme. Et le poète rappelle que « ce fut une année affreuse entre toutes que Déméter donna aux hommes qui vivent sur le sol nourricier. Une année vraiment cruelle. La terre ne faisait pas lever le grain car Déméter couronnée l'y tenait cachée. Et pourtant, Zeus ne pouvait voir les hommes mourir à cause de ce mariage divin. Il envoie Hermès persuader Hadès de rendre Perséphone à Déméter. Et voici ce que lui dit le dieu messager. Hadès a la sombre chevelure qui règne sur les morts, Zeus le père m'ordonne de ramener vers les dieux du fond de l'érèbe ténébreux la belle Perséphone, afin que sa mère, à la voir de ses yeux, s'arrête dans sa colère et son courroux contre les immortels. Elle médite l'acte grave d'anéantir la race débile des hommes qui naissent sur la terre en dérobant le grain dans le sol et songe réduire ainsi à néant les honneurs dus aux immortels. Possédée d'un horrible courroux, au lieu de se mêler aux dieux, elle demeure à l'écart de son temple odorant, sans quitter l'acropole rocheuse d'Éleusis. Il parlait ainsi. Le seigneur du peuple souterrain, Aidoneus, sourit dans ses sourcils et ne désobéit point aux injonctions de Zeus roi. Il se hâta de prier la prudente Perséphone. « Va, Perséphone, auprès de ta mère voilée de noir. Mais garde en ta poitrine une humeur et un cœur serein. Ne te désespère pas trop, c'est inutile et vain. » L'époux que tu auras en moi n'est point indigne de toi parmi les immortels. Je suis le propre frère de Zeus le Père. Quand tu seras ici, tu régneras sur tous les êtres qui vivent et qui se meuvent. Tu auras les plus grands privilèges parmi les immortels. Et ils seront tous châtiés, ceux qui te feront l'injure de ne pas se concilier ton cœur par les pieux sacrifices et les offrandes qui te reviennent. Il parlait ainsi, la prudente Perséphone se réjouit et bondit vivement de bonheur. On pourrait croire que l'histoire se clôture ainsi, mais Hadès est dépeint comme un peu plus malin. Voici ce qu'il fit. Mais il lui donna à manger un pépin doux et sucré de grenade, sans se faire voir, en jetant des regards autour de lui, afin qu'elle ne restât point à jamais auprès de la vénérable Déméter voilée de noir. Il attela les chevaux immortels à l'avant de leur char d'or, le maître de tant d'êtres, Aidoneus. Elle monta sur le char et, à ses côtés, prenant en main les rênes et le fouet, Argéiphontès le fort traversa tout le palais, tandis que les deux chevaux volaient sans se faire prier. Ils couvrirent rapidement leur longue route. Ni la mer, ni l'onde des fleuves, ni les vallons herbeux n'arrêtaient l'élan des chevaux immortels, ni les pics des monts. Ils les franchissaient en fendant les nuées épaisses. Le manuscrit qui nous rappelle cette histoire est ici corrompu. Nous pouvons compléter cette partie de l'histoire grâce à Ovide et ses métamorphoses. Cérès persiste à vouloir ramener sa fille des enfers. Mais les destins s'y opposent, car la jeune fille avait rompu le jeûne. Innocemment, tandis qu'elle se promenait à travers les jardins bien cultivés, elle avait cueilli à un arbre courbé sous ses fruits une grenade. Elle avait retiré 7 grains de la pâle écorce et les avait pressés entre ses lèvres. Personne ne le vit, sinon Ascalaphe, qu'autrefois, dit-on, Orphnée, une des nymphes les plus célèbres de l'Averne, avait conçu de ses amours avec l'Achéron et enfanté sous de noirs ombrages. Il vit, et par une cruelle dénonciation, il empêcha le retour sur la terre. La reine de l'Érèbe gémit. Elle changea le témoin en un oiseau sinistre, et sur sa tête, qu'elle arrosa de l'eau du phlégéton, elle fit apparaître un bec, des plumes et des yeux énormes. Dépouillé de sa fortune première, il s'enveloppe d'ailes roussâtres. Sa tête grossit, ses ongles s'allongent et se recourbent. Il peut à peine mouvoir ses plumes qui ont poussé sur ses bras engourdis. Il devient un vilain oiseau, messager des malheurs qui approchent, un peureux hibou, présage funeste pour les mortels. Selon le mythographe Apollodore, c'est plutôt Déméter qui, dans sa colère, transforme Ascalaphe, ou Ascalaphos, en hibou. Et finalement, Zeus rend son verdict afin de ménager à la fois la mère et l'époux. Voilà comment se conclut le récit fait par Ovide. Arbitre entre son frère et sa sœur désolée, Jupiter divise le cours de l'année en deux parts égales. Maintenant, la déesse, dont la puissance s'étend à la fois sur deux royaumes, passe autant de mois avec sa mère, autant avec son époux. Aussitôt, on la voit changer d'humeur et de visage, car le front de cette déesse, qui pouvait paraître sombre même à Pluton, rayonne de joie. Ainsi, le soleil, qu'obscurcissaient les nuages chargés de pluie, en sort victorieux. Ce récit explique bien sûr le mouvement des saisons. L'hiver, la terre est infertile car Déméter est éloignée de Perséphone. Quant au printemps et à l'été, les arbres donnent des fruits et les fleurs couvrent les champs magnifiques de couleurs. C'est toutefois la partie la plus connue du mythe de Perséphone. Lorsqu'elle est reine des enfers et épouse d'Hadès, Perséphone connaît peu d'accès de colère, hormis lorsqu'on tente de se confronter à elle. La pauvre Minthée en fait les frais. Cette nymphe des enfers, fille du fleuve Cocyte, était à l'origine l'épouse d'Hadès, selon certains auteurs. Prenons un extrait d'Oppien, un auteur qui a composé un traité sur la pêche nommé les Halieutiques. À l'entendre, en effet, elle l'emportait sur Perséphone et pour la noblesse et pour la beauté. Hadès lui redeviendrait assurément fidèle et chasserait de son lit la nouvelle venue. Tels étaient les blasphèmes où se laissait emporter sa langue. Maintenant, cette nymphe, en conservant son nom, est devenue une plante chétive. Et cette plante, c'est bel et bien la menthe. Oppien nous dit que c'est Déméter qui écrase la plante, quand le géographe Strabon affirme que c'est Perséphone qui a agi ainsi, métamorphosant au passage la nymphe en menthe. Et Perséphone montre aussi un autre visage, bien plus chaleureux, mais tout aussi empreinte de jalousie, dans l'histoire du jeune Adonis. Cet humain à la naissance bien particulière était d'une beauté si pure qu'il était aimé passionnément à la fois par Aphrodite et par Perséphone. Apollodore nous raconte l'histoire en partie à rebours. Adonis, encore adolescent, fut, à cause de la colère d'Artémis, blessé par un sanglier au cours d'une chasse et il en mourut. Hésiode dit de lui qu'il était le fils de Phoenix et d'Alphésiboïa. Paniasis le dit fils de Théias, roi d'Assyrie. Celui-ci avait une fille, Smyrna. À cause du ressentiment d'Aphrodite, à qui elle refusait de rendre un culte, cette fille se prend d'amour pour son père. Avec la complicité de sa nourrice, elle partagea pendant 12 nuits le lit de son père sans qu'il la reconnût. Quand il découvrit qui elle était, il tira son épée et la poursuivit. Mais au moment d'être rattrapée, elle pria les dieux de la rendre invisible. Et les dieux, la prenant en pitié, la changèrent en un arbre, celui qu'on appelle Smyrna, l'arbre à myrrhe. 9 mois plus tard, l'arbre se fendit et donna naissance à Adonis, comme on l'appelle. Sa beauté était telle qu'Aphrodite, en cachette des dieux, le mit, encore tout enfant, dans un coffre qu'elle confia à Perséphone. Mais quand Perséphone eut vu l'enfant, elle ne voulut pas le rendre. Un jugement de Zeus intervint, l'année fut divisée en 3, et il décida qu'Adonis passerait un tiers de l'année chez lui, un autre tiers chez Perséphone, et le dernier chez Aphrodite. Mais Adonis consacra Aphrodite à la partie de l'année qui lui appartenait. C'est plus tard qu'en chassant, il fut blessé par un sanglier et mourut. Le poète bucolique Bion rappelle qu'Aphrodite a cédé face à la puissance de Perséphone. « Prends mon époux, Perséphone, tu es, toi, bien plus puissante que moi, et tout ce qui est beau te revient. Moi, je suis de tout point infortuné, en proie à une peine que rien ne rassasie. Je pleure sur Adonis parce que la mort me l'a ravi, et j'ai peur de toi. Tu meurs, toi, qui faisais toute ma félicité. Mon bonheur s'est envolé comme un songe, cithérée et veuve, les amours sont oisifs dans ma demeure. Avec toi a péri le charme de ma ceinture. » Perséphone est la mère de quelques enfants, dont leur nombre varie selon les auteurs. Le plus important et le plus mystérieux à la fois est Zagreus, ou Zagré. C'est dans l'œuvre de Nonos de Panopolis, les Dionysiaques, que l'on connaît l'histoire la plus longue. Il présente cette naissance comme antérieure à l'enlèvement de Perséphone par Hadès. « Vierge Perséphone, tu n'as pu, toi, éviter le mariage. C'est à un serpent que tu as été unie pour tes noces lorsque Zeus se fit corps sinueux, ayant changé son aspect et que, pour t'épouser, devenu serpent qui lovait ses anneaux pleins de désir, il entra jusqu'au fond de ta chambre ténébreuse, agitant sa gueule velue. Posté au chambranle sont les dragons ses semblables. En passant, il clôt leurs yeux. Et, de ses mâchoires nuptiales pleins de douceur, il lèche le corps de la jeune fille. Engendré par son union avec ce dragon venu du firmament, un fruit fécond gonfle le ventre de Perséphone. Elle donne le jour à Zagreus, nourrisson cornu qui, sur le trône de Zeus, dans les cieux, monte seul et de sa faible main agite l'éclair. Dans les paumes puériles du nouveau-né, les foudres se font légères. Mais il n'occupe pas longtemps le trône de Zeus, après avoir rendu d'un plâtre trompeur les contours de leur visage fourbe, poussé par la colère de la déesse Héra, pleine de haine et de lourde rancune, les titans le mettent à mal d'un coutelas venu du Tartare, alors qu'il observe dans un miroir l'image illusoire que celui-ci lui renvoie. Là, tandis que ses membres se divisent sous le fer des titans, Dionysos, faisant du terme de sa vie le début d'une vie recommencée, se transforme en être divers, prenant tour à tour l'apparence de multiples créatures, tantôt comme le Cronide, adulte rusé agitant l'égide. Tantôt vieillard aux genoux alourdis, comme Cronos lançant des averses. Parfois dans ses formes changeantes, il est nourrisson, parfois il est pareil à un jeune garçon en transe, et la fleur toute fraîche d'une première barbe souligne le contour de son visage qu'elle bleuit. Tantôt, sous la forme d'un lion à la colère redoutable, au terrifiant rugissement, il exprime sa rage de sa gorge grande ouverte. Dressant sa nuque ombragée d'une épaisse crinière et faisant vibrer de côté et d'autre, au-dessus de son dos velu, sa queue, fouet animé dont il se marque le corps. Voici qu'il quitte l'apparence d'un lion pour lancer le même hennissement qu'un cheval non dressé, relevant la tête, serrant pour la déplacer la dent arrogante du mort. Et à le frotter de toutes parts, il en argente la joue, toute enduite d'une écume blanche. Parfois, faisant couler de son museau un sifflement strident, bardé d'écailles, il se love, dragon cornu, darde sa langue hors de son gosier béant et bondit sur la tête effrayante d'un titan, nouant à son cou les tours d'un collier vipérin. Et il quitte le corps du reptile aux ondulations incessantes. Le voici tigre au corps tout marqué de taches. Parfois, se faisant taureau, lançant de sa bouche un mugissement imité, il frappe les titans de sa corne pointue. Et il combat pour sa vie, jusqu'à ce que, d'une gorge jalouse, Héra, sa marâtre à la lourde rancune, lance à travers l'espace un mugissement farouche. À la voix de la déesse, pareille à celle de Zagreus, les portes de l'Olympe retentissent d'un vacarme céleste, et le hardi taureau ploie le jarret. À tour de rôle, à coups de couteau, ces meurtriers découpent menu Dionysos sous les espèces d'un taureau. Mais lorsque Zeus le père s'aperçoit qu'une forme ombreuse, au piège d'un miroir, a causé le démembrement du premier Dionysos, après avoir frappé la mère des titans d'une flamme vengeresse, il enferme les meurtriers de Zagreus cornus derrière les portes du Tartare. Et dans les forêts en flammes se consume la chevelure brûlante de la terre accablée. Ce personnage de Zagreus est l'un des avatars de Dionysos, sa première naissance même, et prend une place considérable dans l'orphisme, un courant religieux mystique. Il peut aussi être un fils légitime d'Hadès et de Perséphone. D'ailleurs, plus loin dans les Dionysiaques, au chant 44, quand Dionysos et son cousin Panthée combattent, Dionysos prie Perséphone de lui envoyer l'aide des Érinies pour venger indirectement la mort de Zagreus. Et sans intervenir sur le champ de bataille, Perséphone se fait chef de guerre pour aider son demi-frère Dionysos. Perséphone arme les Érinies et porte secours à son frère affligé, Dionysos le Tarvenu. Sur un signe de tête sinistre de l'épouse du Zeusctonien, les Euménides marchent contre le palais de Panthée. L'une d'elles, jaillissant du gouffre sombre, agite le fouet vipérin du Tartare. Elle puise les flots du Cocyte et l'eau du Styx et, de ses gouttes chtoniennes, arrose la demeure d'Agavé, prédisant ainsi le sanglot et les larmes de Thèbes. Parmi les enfants de Perséphone, on compte encore Mélinoé, la déesse des fantômes et des cauchemars, présente surtout dans les hymnes orphiques. Dans ce courant religieux, les Euménides, les divinités de la vengeance connues aussi sous le nom d'Érinie, sont aussi les filles de Perséphone. Perséphone rencontre encore plusieurs héros de la mythologie grecque, et principalement des membres de la quête de la toison d'or, des Argonautes. Tout d'abord Orphée. Orphée descend aux enfers pour demander à Hadès et à Perséphone de libérer l'âme d'Eurydice. Ovide nous dit que les souverains des enfers se laissent attendrir par le chant d'Orphée. Mais il focalise son attention sur Orphée lui-même et non sur Hadès ou Perséphone. Enfin, Perséphone apparaît lors de la catabase de Thésée et de son ami Pirithoos. La catabase est le moment d'un mythe où un héros descend aux enfers. Après l'enlèvement d'Hélène de Sparte par Thésée, qui souhaitait l'épouser, Pirithoos projette d'enlever et d'épouser Perséphone. Évidemment, arrivés aux enfers, Thésée et Pirithoos se font attraper par les souverains des enfers et sont même emprisonnés pendant quelque temps. Et il faut attendre qu'Héraclès parvienne à son dernier travail, celui qui consiste à ramener Cerbère à la surface pour qu'il rencontre aux enfers les deux jeunes hommes sans s'y attendre. Et voici donc ce qu'en dit Apollodore. Arrivé près des portes d'Hadès, il y trouva Thésée et Pirithoos, celui qui avait prétendu épouser Perséphone et avait été pour cela enchaîné. Quand ils virent Héraclès, ils tendirent les bras vers lui comme si sa force pouvait les ressusciter. Il prit Thésée par la main et l'éveilla d'entre les morts, mais lorsqu'il voulut ressusciter Pirithoos, la terre trembla et il le lâcha. Et c'est avec cet enchaînement de héros grecs que s'achève notre parcours dans l'histoire de Perséphone, la jeune déesse que l'on connaît généralement pour son enlèvement et pour la tristesse ressentie par sa mère Déméter. Elle est une divinité importante à Eleusis, le sanctuaire consacré à Déméter, notamment sous le nom de Despoina. Et Perséphone reste surtout dans l'imaginaire grec comme la Corée par excellence, c'est-à-dire la jeune fille. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Par le Petit Bout du Mythe. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme de streaming préférée et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, et même un commentaire si vous le pouvez. Partagez cet épisode sur les réseaux sociaux pour que nous soyons toujours plus nombreux à faire vivre ces petites histoires de la mythologie. Venez me suivre sur les comptes Le Prof de Latin Grec et Par le Petit Bout du Mythe sur Instagram notamment. Vous pouvez prolonger l'aventure en lisant certains ouvrages qui ont été cités. Je vous mets la bibliographie en description et dans l'article du jour sur le site du podcast, le tout accompagné d'un dossier documentaire. À bientôt pour un nouveau coup d'œil par le Petit Bout du Mythe.